Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver donc pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. La grande famille du rugby en deuil ce soir. Il était la légende du 15 de France, 65 sélections au compteur. Christophe Dominici s'est suicidé cet après-midi. Il avait 48 ans et un immense palmarès avec les Bleus.
Formidable essai français après un exploit extraordinaire de Dominici. Christophe Dominici qui a crocheté 3 blacks.
On se régale, superbe percée extraordinaire de Dominici.
Christophe Dominici, mort donc aujourd'hui à l'âge de 48 ans, reviendra sur son parcours et on entendra les réactions nombreuses. Et ce soir justement, on est ensemble jusqu'à 21h, édition spéciale pour suivre l'allocution du chef de l'État. Dans quelles conditions pourront rouvrir les petits commerces? Pourra-t-on se déplacer librement pour les fêtes de fin d'année? Après un mois de novembre confiné, c'est un nouveau virage qui s'annonce, on en parlera très largement ce soir, jusqu'à 20h avec nos invités. 18h20, le généticien Axel Kahn, il lance un appel au président de la République pour un déconfinement réussi, il nous dira tout. 18h30, le débat des grandes voix, et puis 19h15, le club des idées avec le représentant de la Fédération des commerçants, le numéro 2 de la CPME, le professeur Gaudry, et puis nous irons à Cannes prendre des nouvelles, vous savez, de la libraire qui avait refusé de fermer, Florence Kamerman. Et à 20h, donc, l'allocution du président de la République que l'on suivra ensemble. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
J'ai la gorge nouée tellement, moi je suis bouleversé. Domi, c'est quelqu'un de tellement humain, tellement généreux et là, c'est terrible, c'est terrible.
Domi, le surnom d'une légende qui a fait vibrer les fans de rugby. Christophe Dominici, 65 sélections sous le maillot bleu, 5 titres de champion de France avec le Stade français. Christophe Dominici a été retrouvé mort cet après-midi dans le parc de Saint-Cloud près de Paris.
Polémique après l'évacuation violente d'un camp de migrants hier soir dans la capitale, place de la République.
L'IGPN, saisie de l'enquête, on tentera de comprendre ce qu'il s'est passé avec Guillaume Bier.
Sur le front de l'épidémie, tous les indicateurs, ça y est, sont au vert.
Avant Noël, on devrait atteindre les 5000 cas par jour. Le seuil fixé par Emmanuel Macron, condition pour reprendre le contrôle de l'épidémie, mais on n'y est pas encore.
Le président devrait donc demander ce soir aux Français encore un peu de patience, tout en lâchant un peu de lest.
Les commerçants espèrent en tout cas entendre ce soir qu'ils auront le droit de rouvrir dès samedi.
Au sommaire également, la Ligue des champions de foot, Rennes et Paris ne doivent pas se rater ce soir.
Et la Bourse de Paris qui a terminé en hausse de 1,21% à 5 558 points.
Et puis la tendance météo, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Des nuages au programme demain matin.
Oui, avec encore pas mal de brouillard, hein. C'est vrai que ça fait plusieurs jours que ça dure, et bien là, ils seront concentrés sur le nord-est demain, du soleil dans l'après-midi et des températures qui se radoucissent. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On l'a donc appris cet après-midi, Isabelle, la disparition de l'ancienne internationale de rugby, Christophe Dominici.
Oui, une légende du 15 de France qui restera à jamais celui qui a inscrit un essai mémorable face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde 1999, un exploit qui propulse les Bleus en finale. Au commentaire, ce jour-là, en direct sur Europe 1, Christophe Cessieux et Pierre Albaladejo.
La balle reste toujours pour les Blacks, ce qui est un avantage certain, alors que Galtier en a profité pour jouer au pied. C'est lui qui a subtilisé la balle.
Et il en met de la pression.
Oh, Dominici va marquer.
Dominici va marquer. Extraordinaire récupération de Toulonnais, Christophe Dominici, qui est allé aplatir là-bas. L'essai du bout du monde, c'est peut-être pas le même, mais il est fantastique.
Dominici, une fois encore, qui a étalé son talent, reprenant au rebond magistralement un ballon, débordant le dernier défenseur pour aller marquer cet essai. Mais que c'est beau.
Christophe Cessieux et Pierre Albaladejo qui commandent donc cet essai incroyable hein, en direct sur Europe 1 face au All Black 99 demi-finale de la Coupe du Monde.
Axel May, vous nous avez rejoint. Les hommages pleuvent donc sur les réseaux sociaux. Notamment, les fans de rugby sont en deuil. Ils saluent un génie.
Oui, oui, Domi, vous le disiez, son surnom l'appelait aussi Mini Kid, avec ce jeu imprévisible. Hein, du haut de son 1m72, il était capable de défier les gros gabarits sur le terrain. Pas besoin de connaître le rugby pour le repérer lorsqu'il était en équipe de France ou en club. C'était le petit là, qui courait à toute allure. Et il aura marqué hein, vraiment une génération de rugby, vous avez raison, avec ses 67 sélections en équipe de France, dont 3 Coupes du Monde. La Fédération française de rugby vient de réagir. Hein, une légende, un joueur emblématique, dit la Fédération. Lors d'un de ses derniers matchs, c'était lors de la Coupe du Monde en France en 2007, à l'issue d'une nouvelle victoire contre la Nouvelle-Zélande. Et je vous propose d'écouter ce souvenir.
Une fois c'est eux, une fois c'est nous, une fois c'est eux, une fois c'est nous. Et là c'est un autre tour.
Je rêve jamais.
20 ans de ma vie, je rêve très peu. Et avant le match de l'Argentine, j'avais rêvé qu'on perdait, donc je l'avais dit à personne. Et avant ce match-là, j'avais rêvé qu'on gagnait.
Voilà, alors c'était donc en 2007, Christophe Dominici, après la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2007, il annonce sa retraite internationale et il se réconvertit notamment comme consultant radio. Et sur les matchs, on le voyait lorsqu'on était dans la tribune commentaire d'Europe 1, par exemple au Stade de France, notamment Simon Rubin qui suit plus le rugby que beaucoup le rugby. On le voyait là en bas en train de discuter, de plaisanter. En club, il a été sous le maillot de Toulon, puis ensuite il a été sa ville d'origine, puis ensuite sous le maillot du Stade français, multipliant les titres de champion. Mais sa vie de star avait été marquée par des blessures. Il avait perdu sa sœur jeune. Il en avait gardé vraiment. Il le disait encore récemment, une grande blessure au fond de lui. Et puis, beaucoup plus récemment, il avait voulu rejoindre le club de Béziers et il n'avait pas pu acheter le club de Béziers, ce qui avait là aussi, semble-t-il, laissé des blessures en lui. Alors, on ne sait pas exactement comment il est mort, mais il se serait, c'est à prendre au conditionnel, il se serait donné la mort.
Merci beaucoup. Axel May du service des sports d'Europe 1, Christophe Dominici, qui a passé, vous l'avez dit, la grande partie de sa carrière au Stade français, avec lequel il a remporté 5 titres de champion de France. Écoutez l'émotion ce soir de Max Guasini, l'ancien patron du club.
Je suis bouleversé. On a vécu de tels bons moments ensemble. Alors je sais que ces derniers temps, il n'allait pas très bien, c'est tout ce que je sais. J'ai la gorge nouée tellement. Moi, je suis bouleversé. Domi, c'est quelqu'un de tellement humain, tellement généreux. Et là, c'est terrible, c'est terrible. On a été 5 fois champion de France, oui, bien sûr. Oui, on a tout connu parce qu'il est arrivé en 97. Et c'est épouvantable. Il a 48 ans, Domi. C'est épouvantable. Il a 2 enfants, 1 femme. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je suis bouleversé. On est tous bouleversés. On pleure tous, voilà.
Voilà, Max Guasini, l'ancien patron du Stade français, qui réagissait donc à la disparition aujourd'hui de Christophe Dominici.
18h05, dans l'actualité également, la situation sanitaire et la nouvelle prise de parole attendue d'ici un peu moins de 2 heures d'Emmanuel Macron, intervention que l'on suivra bien entendu ensemble en direct sur Europe 1.
Les derniers arbitrages ont été rendus en Conseil de défense. Ce matin, le chef de l'État va donc annoncer tout à l'heure les prochains ajustements au confinement.
Oui, un allègement qui devrait être marqué par plusieurs phases.
D'abord, peut-être dès ce week-end, réouverture des commerces non essentiels, puis peut-être des facilités de déplacement à l'occasion des vacances de Noël, même si hier soir Jean Castex a mis en garde. Les réveillons sont des usines à Covid, a-t-il dit. Pour les cafés-restaurants, il faudra en revanche patienter sans doute au moins jusqu'à janvier.
On est loin donc d'un déconfinement, mais l'exécutif lâche quand même un peu de bride, Victor Delande, car les chiffres vont dans le bon sens.
Oui, tous les indicateurs de circulation du virus sont au vert. Le couvre-feu et le confinement ont marché. Le taux de positivité des tests diminue toutes les semaines, aux alentours de 14% en ce moment. On est actuellement entre 10 et 30 000 contaminations par jour. Et si on prolonge la courbe des cas, on peut voir à quel moment on pourrait atteindre les 5 000 contaminations quotidiennes, seuil fixé par Emmanuel Macron pour reprendre le contrôle sur l'épidémie. Jean-Stéphane Dersin est responsable au CNRS de la plateforme de modélisation COVID-19.
Si on continue la descente telle qu'on descend actuellement, au 1er décembre, on sera plutôt à un peu plus de 10 000 cas. Et donc, il faudra attendre une dizaine de jours, une quinzaine de jours supplémentaires pour atteindre les 5 000.
Mais attention à un nouveau relâchement, préviennent les épidémiologistes. L'objectif principal est de rester sous la barre de 1 pour le taux de reproduction. Actuellement, ce R effectif est de 0,65. Mais nos comportements et les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État auront forcément une incidence sur l'épidémie. Les spécialistes plaident pour un allègement progressif, ne surtout pas tout relâcher comme au printemps pour ne pas connaître une troisième vague et un troisième confinement.
Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Pour les commerçants, en tout cas, chaque jour compte et tous espèrent qu'Emmanuel Macron annoncera ce soir une réouverture dès samedi.
Et sans attendre, il se prépare à l'image de ce fleuriste parisien, Alain Vidal.
Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, on est au bout. Donc ben là, on vit de la boutique pour faire de la place, parce que pendant un mois, là, l'état de la boutique n'avait plus beaucoup d'importance. Donc, on est en train de tout nettoyer, préparer, pour accueillir les clients samedi, je l'espère. Il me tarde qu'ils parlent ce soir. Après, on ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Hein.
Un fleuriste parisien avec Carole Ferry.
Intervention que l'on peut qualifier...
Un fleuriste parisien, donc, avec Carole Ferry, et puis dans l'actualité
également, pardon, j'allais un peu vite en besogne. 2 enquêtes ouvertes à Lille et à Paris concernant un compte bancaire détenu par le ministre délégué au PME, Alain Griset.
Oui, compte qui a fait l'objet d'un signalement à la Haute Autorité pour la Transparence pour la Vie Publique en cause à un PEA, un plan d'épargne action, qu'il a omis apparemment de déclarer. Sur ce compte, il y avait de l'argent qui provenait de la Fédération de l'Artisanat et des Services, une instance qu'Alain Griset a présidée jusqu'à son entrée au gouvernement. Il reconnaît une maladresse.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et la suite de votre journal à 18h10 avec Isabelle Millet. On revient donc sur cette polémique qui enfle aujourd'hui.
Après l'évacuation d'un campement de migrants hier soir par la police, place de la République à Paris. On en parle tout de suite avec vous, Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Guillaume, ce qu'on entend derrière nous, c'est l'ambiance au moment de cette intervention.
Oui, intervention que l'on peut qualifier de musclée, Guillaume Bier, qui fait donc suite à l'installation de plusieurs centaines de migrants et de leurs tentes sur cette grande place de la République.
Oui, des migrants évacués mardi dernier à l'aube du campement de Saint-Denis au nord de Paris où ils étaient au moins 3000. Mais depuis, certains n'ont toujours pas d'hébergement. Alors pour marquer l'opinion, alerter les pouvoirs publics, une association leur a acheté des tentes et voulu monter ce campement place de la République pour rendre visibles ces personnes qui sont à la rue, explique Kirill Teriya. Il est responsable parisien de l'association Utopia 56.
On savait qu'il y avait ce risque qu'il y ait un démantèlement violent, mais que c'était un risque qui était nécessaire pour que les personnes puissent être hébergées parce que de toute façon, elles sont totalement invisibilisées dans le nord de Paris. C'est une idée fausse de dire qu'on instrumentalise la situation des gens, qu'on organise les opérations sans les concerter. Non, non, là, c'était bien les personnes exilées qui nous ont fait part de leur volonté de visibiliser leur situation. Et nous, on leur a dit qu'on était d'accord pour participer et pour organiser quelque chose.
Alors, en présence d'élus, de militants, d'avocats et de journalistes, 400 à 500 migrants se sont installés sur place. Intervention des forces de l'ordre pour empêcher cette installation, justement. Mouvement de foule, tension, poursuite des migrants dans les rues adjacentes. L'un d'eux tombe, victime d'un croche-pied de la part d'un policier. Scène filmée par des journalistes dont certains ont aussi été molestés.
Et des scènes qui ont choqué jusqu'au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Guillaume, pour que cette intervention prenne ce caractère brutal et disproportionné, semble-t-il ?
Ce qui est clair, c'est que la préfecture de police n'avait manifestement pas anticipé ce rassemblement. Les forces de l'ordre ont été déployées en urgence pour disperser ce campement au plus vite, avec les effectifs disponibles sur le moment, à savoir un escadron de gendarmes mobiles, la compagnie de sécurisation parisienne et surtout les 4 brigades anticriminalité de nuit de Paris et de toute la petite couronne qui d'habitude luttent contre la délinquance en flagrant délit. L'évacuation de migrants sous la pression, ce n'est pas vraiment leur spécialité. Ça n'excuse absolument rien à certains gestes. L'IGPN est donc saisie, la justice aussi. Et le ministre de l'Intérieur s'est engagé à rendre publiques les premières conclusions administratives dès jeudi.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice de Repas, intervention qui intervient et ça tombe mal en plein débat sur le projet de loi de sécurité globale. Proposition de loi qui sanctionne, vous savez, la diffusion malveillante de l'image des policiers, notamment lors de manifestations, et qui a reçu un premier feu vert tout à l'heure à l'Assemblée, puisqu'elle a été adoptée par 388 voix pour, 104 contre, 66 abstentions, et devrait donc atterrir au Sénat en janvier.
Et on sera sur place à 19h.
Et dans ce contexte, ce sondage que vous révèle Europe 1 ce soir, sondage confidentiel que nous avons pu consulter, commandé par le gouvernement, qui a voulu savoir ce que les Français pensaient de cette loi.
Eh bien, 58% d'entre eux considèrent que c'est une bonne chose car la diffusion des images met en danger les policiers et les gendarmes, contre 40% qui estiment à l'inverse que les citoyens et les journalistes doivent continuer à filmer et donc documenter les interventions des forces de l'ordre.
Et Jean Castex annonce qu'il saisira lui-même le Conseil constitutionnel sur le fameux article 24 après l'adoption de la loi.
La Ligue des champions de foot, Rennes joue son va-tout ce soir. Les Bretons accueillent Chelsea à partir de 18h55 tandis que le PSG reçoit Leipzig à 21h.
Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité ce soir sur Europe 1. Julien Froment, en cas de défaite, non, je me moque parce que vous avez dit Leipzig.
Absolument, mais vous avez raison.
Peut-être. Voilà. Et en cas de défaite, Simon, Julien Froment, décidément, Paris serait au bord de l'élimination. Il n'aurait plus son destin en main.
Oui, voilà, il faudrait sortir la calculette. Regardez aussi ce que fait Manchester United ce soir contre Istanbul. En tout cas, une chose est sûre, le Paris Saint-Germain est déjà en très mauvaise posture. Jamais sous l'ère Qatari, il n'avait perdu 2 matchs de poule. Et pour retrouver trace d'une élimination, il faut remonter à 2004, une époque où le PSG n'avait ni idée ni pétrole. Ce soir, il y aura le trio magique Mbappé, Neymar, Di Maria pour tenter d'éviter un accident industriel. Alors, l'adversaire reste normalement à la portée du PSG. Le Rasenball Leipzig est une bonne formation allemande, mais pas du niveau, par exemple, du Bayern Munich. Mais grâce à l'afflux d'argent de son propriétaire, une célèbre boisson énergisante qui donne des ailes, et bien le club l'Allemagne de l'Est, qui n'existait pas il y a encore 10 ans de cela, s'est fait une place sur la scène européenne, mais pas encore au point, théoriquement, de détrôner le PSG.
Merci Julien Froment, vous vous apprêtez à partir au Parc des Princes, vous nous ferez vivre cette rencontre dès 21h, aux côtés de Cyril Delamorinerie.
Oui, grande soirée foot, juste après l'intervention d'Emmanuel Macron et le débrief avec nos invités. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce un temps nuageux sur plutôt le quart nord-ouest et le sud de la France.
Voilà, c'est effectivement les endroits où il va faire le plus mauvais demain. De la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par le Cotentin, la Normandie, le centre-Val de Loire et la région parisienne. Demain matin, le ciel est couvert avec au fil des heures quelques petites gouttes sur les côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, sur la Normandie et la région parisienne, là, il y aura quelques éclaircies. Dans le sud, vous le disiez, Julien, sur le golfe du Lion, le ciel est gris là aussi, jusqu'au sud du massif central avec de la pluie toute la journée. Dans le Grand Est, encore beaucoup de brouillard et de nuages bas demain matin, des grisailles qui resteront tenaces, notamment sur les Ardennes, l'Alsace et le Val-de-Saône. Le vent d'OTAN dans le sud va se renforcer avec notamment sur la montagne Noire des rafales à 80 km/h. Les températures toujours froides à l'est, mais partout ailleurs, hein, à part la Bretagne, le sud et le Grand Est, partout ailleurs il fait beau demain après-midi.
Bon.
Moins 2 à 3 degrés dans le Grand Est demain.
Mais froid,
ouais. 3 à 12 partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, on aura 8 à 12 degrés dans le Grand Est. C'est encore frais, mais ça remonte. 12 à 15 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
18h16, dans quelques secondes, notre invité à 18h20, le généticien Axel Kahn, qui lance un appel au président de la République pour un déconfinement réussi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h20, il est médecin et généticien et préside également la Ligue contre le cancer. Bonsoir Axel Kahn.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-signataire donc d'un appel lancé au président de la République pour un déconfinement réussi. Qu'attendez-vous précisément ce soir de sa prise de parole ?
Je pense que le président de la République a pris conscience des erreurs, des insuffisances, non pas du confinement de mars à mai, mais du déconfinement qui a connu une certaine insouciance et qui a contribué par conséquent à la gravité de la deuxième vague. Il faut absolument profiter de ce deuxième confinement et de la baisse très importante de la circulation virale que l'on a obtenue normalement par le confinement, et tout mettre en œuvre pour que ce bon résultat maintenant soit maintenu. On va aller faire les courses à Noël, il ne faut pas que l'on se réinfecte dans la foulée.
Axel Kahn, vous avez appelé notamment à une stratégie d'isolement beaucoup plus cadrée, c'est un peu le message que vous nous dites à l'instant, des malades du Covid. Êtes-vous favorable, par exemple, à des sanctions, comme cela a été évoqué dans le débat public, pour les contrevenants ?
Alors, je ne dirais pas sanctions spécifiques. Ce qui est important, et c'est vraiment notre message, c'est que cette stratégie qui est très importante, qui comporte la triade, la tétrade même, tester, cibler, c'est-à-dire tracer, isoler et protéger. C'est important à partir du moment où cet isolement est effectif, parce qu'autrement, le fait de tester et de tracer, ça sert strictement à rien si les personnes qui sont infectieuses continuent de se balader. Et donc ça, c'est tout à fait important. Mais il ne faut pas qu'on les mette en prison. Il ne faut pas que ce soit une sanction. On fait appel à leur générosité pour qu'elles n'infectent pas les autres. Alors, c'est là où l'on introduit cet élément de protéger. Il faut que ces personnes soient incitées à être isolées. Et tous les isolements, depuis qu'il y a des isolements, comportent une sanction financière, une amende, si on les rompt. Eh bien, il n'est pas anormal que l'isolement des personnes contaminées donne lieu à une sanction s'ils sont rompus, à une amende, du même ordre d'ailleurs que les amendes qui existent aujourd'hui. Mais que l'on offre aux personnes qui vont être confinées pendant 7 jours, c'est pas terrible. Toute une série de mesures. Voilà.
Axel Kahn, on comprend que selon vous, c'est la seule manière d'éviter une troisième vague. Au vu des derniers indicateurs, est-ce que c'est le bon moment pour entamer un déconfinement gradué, comme s'apprête à l'annoncer a priori le président de la République ? Il visait, disait-il, moins de 5000 contaminations par jour. Nous y sommes presque. Est-ce que c'est le bon moment, par exemple, pour réouvrir les petits commerces ?
Écoutez, réouvrir les petits commerces, il n'y a pas qu'une option sanitaire dans cette affaire, vous le savez bien. Réouvrir les petits commerces durant la période des achats de Noël en décembre, c'est une nécessité économique vitale. Il y a énormément de professions qui font 50-60% de leur chiffre d'affaires durant cette période. On ne va pas ruiner toutes ces professions.
Mais Axel Kahn, si ça n'était pas Noël, est-ce qu'on pourrait rouvrir les petits commerces ? Vous comprenez ma question sur un plan purement sanitaire, est-ce que
si
c'est judicieux ?
Si ça n'était pas Noël, peut-être on pourrait attendre encore un tout petit peu, mais la question ne se pose pas. La raison pour laquelle, peut-être un peu tard à mon avis, le gouvernement a décidé de confiner, c'était pour se donner les moyens de faire baisser la circulation virale, pour sauver la période de Noël dans ces deux dimensions, la dimension de l'activité économique et la dimension de participation aux fêtes de fin d'année, évidemment extrêmement prudente. Rien de comparable avec des fêtes en dehors de la Covid. Et c'était pour cela. Et donc la question de savoir si qu'est-ce que l'on ferait s'il n'y avait pas Noël, il y a Noël.
Alors, une autre interrogation demeure, hein, ce sont les stations de ski qui jouent aussi leur survie économique, puisqu'on parle d'économie. Noël, c'est 25% par exemple de leur activité. Est-ce que selon vous, une ouverture des stations, si les bars et les restaurants restent fermés, est-ce que c'est jouable ?
Alors ça, écoutez, je ne suis pas un technicien de l'économie des stations de ski.
Sur un plan sanitaire, encore une fois, que
voilà. Ce qui m'inquiète dans les stations de ski, c'est qu'on ne va pas remplir un téléphérique. Mmh. On voit bien, c'est absurde. Donc, si par hasard on remplit les stations de ski, il y a toute une série d'utilisations et de dispositifs des stations de ski qui sont totalement exclus.
Oui.
Que de manière extrêmement distante, les gens étant à 2-3 mètres les uns des autres, ils prennent le tire-fesse, etc. Mais il faut absolument, mais vraiment absolument, éviter. Ce qui est important, c'est reprendre une activité économique en maintenant une distanciation physique qui sera propice à l'évitement de la réinfection.
Alors,
c'est ça vraiment la stratégie.
On vous entend. En même temps, on pourrait dire qu'un téléphérique, c'est un peu comme un métro ou un bus qui continue de circuler aujourd'hui partout en France et notamment dans les grandes villes. Alors ce matin, Axel Kahn, le professeur Salomon...
C'est pas tout à fait pareil. D'abord parce que là, il y a des copains, les gens se parlent, etc. Dans le métro,
mais on peut garder le masque.
Il y a des contaminations, mais les gens restent extraordinairement et c'est vrai que le fait de parler expulse des gouttelettes de salive et certainement l'un des supports de la transmission du virus.
Alors Axel Kahn, ce matin, le professeur Salomon, président de la commission médicale d'établissement de la PHP, nous disait que pour le réveillon, il faudrait couper la bûche de Noël en deux pour que papy et mamie puissent manger dans la cuisine et le reste de la famille dans la salle à manger. Vous partagez cette préconisation ? C'est dur à entendre quand même pour les familles, ça.
Honnêtement, je ne vais pas aller jusque-là et je crois qu'il faut prévenir les gens, les informer et les laisser prendre les responsabilités. Il ne faut pas infantiliser non plus les personnes âgées. Je veux dire, il y a un problème qui est de respect. Moi-même, si vous voulez, si je suis à la place du professeur Rémi Salomon, je vais vous dire, moi personnellement, j'ai effectivement renoncé à passer Noël avec mes petits-enfants.
Vous ne les verrez pas.
Non, je les verrai par Facebook. Et puis, on s'est donné un rendez-vous pour le mois de juin. Et on fera Noël en juin. Mais ça va être formidable, Noël en juin. Il y aura des fleurs, du soleil. Voilà. Et s'il y a d'autres gens qui, comme moi, sont des grands-parents, je vais leur conseiller la même chose. Et cela étant dit, je ne vais pas les infantiliser. Je leur fais confiance. Écoutez, soyez raisonnables.
Axel Kahn, pour ceux qui ne peuvent pas attendre et qui ont envie quand même, parce que certains ne les ont pas vus depuis quasiment 8 mois, hein, leurs petits-enfants. Alors, pour ceux qui ont envie de se voir quand même à Noël, quelle serait la bonne jauge pour que le repas de Noël se passe dans des conditions sanitaires à peu près respectées ? J'ai vu que les Länder allemands, par exemple, s'étaient mis d'accord pour 10 personnes. En France, quelle serait la bonne jauge ?
Oh, c'est un peu arbitraire ce que vous me demandez là. Mais je pense que pour l'essentiel, il faut que les réunions de Noël soient limitées à la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est 5 personnes. Il faut que entre les plus fragiles et les autres personnes, il y ait au moins 2 mètres. Il faut que s'il y a un peu moins, les sujets soient masqués. Il faut faire extrêmement attention. C'est vrai que, écoutez, que à l'occasion de la féerie de Noël, il y a ensuite des papis et des mamies qui meurent de la Covid. On ne peut pas du tout risquer de connaître cela. On ne le peut pas. Ce ne serait pas un beau cadeau de Noël quand même.
Un dernier mot, Axel Kahn. Est-ce que cette fois, on peut dire clairement que le pic de la deuxième vague est bien derrière nous ?
Oui, ça on peut le dire. Mais le problème n'est pas là. Vous savez, c'est totalement mécanique. Il n'y a d'infection que par proximité physique. Si vous créez des conditions de distanciation physique augmentées, même si le déconfinement n'est pas aussi rude qu'il l'était au printemps, eh bien, vous diminuez la circulation virale et donc vous diminuez le pic. C'est automatique, il ne peut pas en aller autrement. La question n'est pas celle-là. La question, c'est que dès que l'on sera dehors, il ne réaugmente pas. C'est ce dont nous parlons.
Bien, merci beaucoup Axel Kahn pour cet entretien et ces échanges. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On évoquera bien sûr les annonces attendues du président Macron, mais aussi cette polémique après l'évacuation d'un camp de migrants à Paris. Gérald Darmanin est-il fragilisé ? A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et on a appris aujourd'hui la disparition de Christophe Dominici, ancien international de rugby. Il avait 48 ans, 67 sélections sous le maillot du 15 de France. Il avait remporté 5 championnats de France avec le Stade français. Des ajustements au confinement, c'est ce que devrait annoncer tout à l'heure Emmanuel Macron à 20h, à suivre en direct sur Europe 1. Desserrer les taux mais sans lever totalement les restrictions. Un allègement qui devrait se faire en 3 phases. Début décembre, avant Noël, puis au début de l'année prochaine. La police des polices saisie après l'évacuation musclée d'un campement de migrants en place de la République à Paris hier soir. MSF va porter plainte. Le secrétaire général des commissaires de la police nationale admet des gestes inappropriés. 2 enquêtes judiciaires sont par ailleurs ouvertes après le croche-pied d'un policier à l'un des migrants et des violences contre un journaliste. La Ligue des champions de foot, Rennes joue son va-tout ce soir. Les Bretons accueillent Chelsea à partir de 18h55, tandis que le PSG reçoit Leipzig à 21h. Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce de la pluie demain du côté de la Bretagne.
Oui, une perturbation apporte effectivement, Julien, un temps pluvieux sur la Bretagne, sur le Finistère en particulier, où demain nous aurons l'équivalent d'une semaine de pluie en une journée, voilà, sur le département du Finistère. De l'Auvergne à la Corse et sur tout le pourtour méditerranéen, le ciel est couvert demain avec des averses tout au long de la journée, là aussi des entrées maritimes qui restent tenaces. Partout ailleurs, après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'impose et arrive dans l'après-midi. Attention dans le nord-est, en Alsace, sur les Ardennes et dans le Val-de-Saône, les brouillards restent tenaces toute la journée. Les températures toujours fraîches dans l'est le matin avec moins 3 degrés du côté de Belfort. Et dans l'après-midi, on ira jusqu'à 18 degrés.
Eh ben pas mal, 18 degrés. Ouais, merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Et Louis Dragnel, rédacteur en chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
On va revenir évidemment dans un instant sur la prise de parole très attendue du chef de l'État et les annonces qui vont en découler. D'abord, je voudrais revenir avec vous sur cette polémique qui fait beaucoup de bruit suite à l'évacuation de ces migrants qui s'étaient installés place de la République à Paris. Coup de matraque, chasse à l'homme dans les rues de Paris. L'opposition à gauche se dit indignée, l'IGPN a été saisie et le ministre Darmanin parle lui aussi d'images choquantes. On y voit notamment un journaliste et des migrants molestés. On écoute la réaction au micro d'Europe 1 de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Ce que nous avons vu hier sur la place de la République et ensuite sur le parvis de l'Hôtel de Ville est profondément choquant. Des violences qu'on a tous vues sur des personnes qui sont des personnes fragiles et aussi, d'ailleurs, une tension très très forte avec les différents élus de tous bords qui étaient présents aux côtés des réfugiés et des migrants. Donc cette situation n'est pas acceptable.
Oui, j'ajoute que des syndicats de policiers ont également condamné ces images et regretté que cette évacuation ait été menée par des policiers, je les cite, un non-spécialiste du maintien de l'ordre, à savoir un escadron de gendarmes mobiles, des policiers de la BAC et une compagnie de sécurisation et d'intervention qui ont été déployés. Les policiers précisent que ça n'est pas leur spécialité. Emmanuel Ducrot, ça fait beaucoup entre ça et la polémique sur l'article 24, sur l'interdiction de diffuser des images de policiers. Ça fait beaucoup pour le gouvernement dans un moment qui n'est pas propice.
J'ai envie de dire, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Il n'y a vraiment rien qui va. Il y a effectivement des images qui sont totalement inadmissibles, enfin quelque chose qui a visiblement dérapé. Où est la hiérarchie dans tout ça ? Enfin, qui a donné l'ordre de cette opération qui dépasse complètement l'entendement ? Il y a aussi qui a envoyé ces gens au casse-pipe, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, sur cette place de la République, installé sciemment un campement avec des gens sur cette place-là. On savait exactement comment ça se terminerait. Et tout ça dans ce contexte de projet de loi sur la sécurité globale où des gens attendent que ça dérape. Il y a de l'inconscience absolument partout dans cette affaire et il est temps que la pression retombe parce que cette histoire va mal se terminer. Le projet de loi a été voté cet après-midi. Ça n'a strictement rien changé à cette histoire.
Sauf que quand même le Premier ministre Jean Castex, interrogé à la tribune à l'Assemblée nationale, a dit « Je vais saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il voit si l'article en question, l'article 24, est constitutionnel. » Et il renvoie au Sénat la responsabilité de changer éventuellement le projet de loi.
Il n'y a rien qui va.
Il s'en lave les mains.
Il n'y a rien qui va.
Qui veut intervenir ? Charles Villeneuve.
Moi, je trouve que le ministre de l'Intérieur a très bien vu venir l'embûche. par son tweet. Il a parfaitement compris, il était en pleine discussion sur sa loi sur la sécurité globale. L'article 24 venait d'être voté à une large majorité, 146 voix contre 24, évidemment, les députés de la France insoumise et quelques députés socialistes. Il a très bien vu que, de toute façon, et c'est pour ça qu'il a tweeté en disant que les images étaient choquantes.
Oui.
Un peu ce que vient de dire.
En même temps, c'est compliqué de dire l'inverse quand on voit les images.
Oui, non, parce qu'il pouvait parfaitement, vous savez, dans un affrontement, tout était réuni pour qu'il y ait un affrontement.
Oui.
Bon, c'est vrai, vous au cœur de Paris, place de la République, en plein confinement. En plus, bon, vous envoyez évidemment un service d'ordre qui semble, d'après ce qu'on nous dit, pas tout à fait habitué à ce type d'affrontement.
Moi-même, les syndicats de policiers le disent. Hein.
Oui, et puis en plus, il y a évidemment les caméras, et on sait très bien qu'en matière politique, si les caméras ne sont pas là, rien n'existe. La plupart des caméras n'étaient pas d'ailleurs de journalistes professionnels et avec des cartes professionnelles, mais des indépendants dont certains travaillent pour un certain nombre de partis politiques, notamment de gauche.
Oui, mais pas que. Il y a aussi des journalistes indépendants qui revendent des images à France Télévisions.
Oui, il y en avait de gauche. Comme moi, je les connais. Vous savez, je suis habitué au reportage.
Oui.
J'en ai fait beaucoup et j'ai bien vu qui c'était et qui était là aussi. Il ne faut pas non plus le négliger, pas toujours tirer la couverture dans un seul sens. Bon. Ensuite, évidemment, il a vu ça, il a tweeté parce qu'il a eu les premiers renseignements par le préfet de police qui lui-même, d'ailleurs, son rapport va être publié d'après l'engagement du ministre de l'Intérieur. Il a vu le piège dans lequel il ne fallait pas tomber et il a tout de suite demandé à l'IGPN de faire un rapport sous 48 heures, puisque dans 48 heures, on verra sans doute les premières sanctions, ou du moins l'esquisse des sanctions qui vont être prises.
Mais quand même, ça fragilise un, d'abord le préfet l'Allemand, qui est clairement fragilisé, parce que le prendre à partie comme ça, comme a fait Darmanin, c'est quand même le fragiliser, et puis ça fragilise quand même, qu'on le veuille ou non, le ministre de l'Intérieur, Louis Dragnel.
Oui, absolument, et d'ailleurs c'est une mauvaise séquence pour Gérald Darmanin, parce que ça fait plusieurs quand même petits cailloux dans sa chaussure depuis quelques temps. S'agissant du préfet de police de Paris, en fait, sa mission, elle était claire quand il a été nommé. Il a été nommé en pleine crise des Gilets jaunes, précisément parce que son prédécesseur, on lui reprochait d'avoir des dispositifs qui étaient trop souples, pas du tout suffisamment offensifs par rapport à la menace que représentaient les Gilets jaunes, en tout cas pour le pouvoir. Et donc, Didier Lallement est très protégé par l'Élysée. Il a bien été nommé par l'Élysée. Mmh. Et donc, pour les ministres de l'Intérieur, c'est une équation qui est assez compliquée en fait, à gérer, puisque le ministre de l'Intérieur n'a pas la main sur la préfecture de police de Paris, qui est une sorte de petit état dans l'état, on l'a déjà dit suffisamment. Ensuite, je voulais simplement revenir quand même sur le contenu des images, qui effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense qu'on est tous d'accord, les images sont choquantes. Quand on regarde le dispositif, très rapidement, tout le monde dit oui, il y avait les unités n'étaient pas bonnes. En fait, il y avait certaines unités qui savent faire du maintien de l'ordre, les escadrons de gendarmes mobiles et la CSI que vous citiez tout à l'heure. Et ensuite, le problème, c'est, et je pense que c'est ça qui sera intéressant, c'est d'étudier à l'issue du rapport de l'IGPN, pourquoi est-ce qu'il y a des unités de BAC de nuit qui ont été mobilisées pour faire de l'évacuation de migrants. Parce qu'en fait, effectivement, ça nécessite des techniques très particulières.
Et un savoir-faire.
Et les BAC de nuit, en fait, sont très professionnels, mais pas pour ça.
Oui.
Et enfin, la dernière chose qui est extrêmement importante, c'est que on ne peut pas évacuer aussi la question de regarder ce qui se passe. Ça fait la 67e ou 68e évacuation du camp de la Porte de la Chapelle. À chaque fois, en fait, on évacue quasiment les mêmes personnes. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a 120 000 obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées en 2019. Vous savez combien il y en a qui ont été réalisées effectivement ? 12 718. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'à cause du Covid et des problèmes administratifs, des recours qui sont faits par les associations souvent qui défendent les migrants, eh bien, le ministère de l'Intérieur est incapacité, n'a pas les moyens en réalité de les expulser ou alors de leur donner.
Vous avez raison, Louis Dragnel, mais la gestion de crise, la préfecture de Paris est habituée à gérer des crises. Bah,
Il
y en a plein des crises de maintien de l'ordre.
Le ministère de l'Intérieur et la matière policière est toujours très politique. Et c'est là où, en fait, la crise, quand une crise touche la police, particulièrement en ce moment où les conflits sociaux sont quand même assez forts, eh bien, tout devient très rapidement politique et remonte à l'Élysée.
Avouez que dans la séquence actuelle, alors que certains critiquent l'article 24, ça donne du grain à moudre, car ceux qui sont contre cet article 24 disent à juste titre, si on ne peut plus montrer les policiers, on ne peut pas montrer ces images de violence précisément qui ont été diffusées hier soir.
La preuve, regardez les images. Non, mais en réalité, la preuve.
Non, mais c'est pas encore.
Non, oui, mais
c'est pas encore ratifié la loi. Donc,
Charles,
tu peux. Mais tu peux montrer tout de suite les images.
Il y a fort à parier que les mêmes images pourront être diffusées dans les
bien sûr,
prochains mois.
Mais bien sûr, même si on les floute, évidemment.
Cette histoire paraît être un tonneau de Danaïde. Enfin, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui décemment penser qu'on peut empêcher la diffusion d'images sur les réseaux sociaux? C'est complètement illusoire.
Évidemment.
Enfin, elles tourneront, quoi qu'il en soit.
Et derrière, il y a l'efficacité. Concrètement, ce n'est pas faisable. Quand bien même ils voudraient le faire, en fait, ce n'est pas faisable. Et après, effectivement,
je rappelle que quand même tous les organes de presse auxquels nous appartenons respectivement sont partie prenante dans cette affaire et sont contre l'article 24.
Tu sais très bien, Louis, que quand on floute, on peut parfaitement déflouter de toute façon. Et les organes de presse le font eux-mêmes. En général, l'image nous arrive, on floute par rapport au droit, par rapport à la cellule judiciaire ou juridique plutôt de l'entreprise de presse qui te demande de flouter pour ne pas identifier. Donc toi-même, de toute façon, entreprise de presse, tu ne le mets pas sur les réseaux sociaux.
Et donc le sujet,
mais général, diffuse.
Le sujet, ce n'est pas tant celui de la presse, en fait. C'est la capacité qu'a le ministère de la Justice, en fait, à retirer rapidement des contenus qui portent atteinte à l'intégrité personnelle des policiers. Et en fait, c'est là où la confusion globale est partie, parce que en fait, tout le monde est d'accord pour dire que dès lors qu'un policier est menacé, que son adresse personnelle est divulguée sur les réseaux sociaux, il faut que le contenu soit supprimé rapidement. Et en fait, on a tout à dériver parce que, pour le coup...
On verra comment atterrira dans les textes de loi l'article 24, parce qu'encore encore une fois, si le Conseil constitutionnel est saisi, il n'est pas dit qu'on aille au bout. Emmanuel Ducrot.
Moi, je suis assez choquée quand même de cette espèce de guerre des nerfs qui s'est engagée entre les forces de police en général et une petite frange de... je ne sais pas, de gens à smartphone, j'ose pas dire autre chose. Moi, je suis choquée des attroupements de gens qui attendent le dérapage. Je crois qu'en tant que journaliste, nous avons la responsabilité de relater l'événement, pas de le créer, et pas de créer l'incident. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct de le dire. Moi, je m'interroge quand même sur le fait que des gens à smartphone soient partie prenante des incidents. Je n'excuse absolument jamais le fait qu'un journaliste reçoive des coups dans l'exercice de son métier. C'est pas du tout le problème.
Lors de la crise des Gilets jaunes,
c'était déjà le cas.
C'était pas les journalistes qui créaient les événements, quand même, rassurez-moi.
Tout ce que j'ai dit. Je parle des événements
Des gens à smartphone.
Non, mais parce que pendant la crise des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de journalistes à smartphone.
Il y a quand même, faut le dire, il y a des associations aussi qui font tout pour créer la possibilité de l'incident. Donc ça va être, par exemple, se rapprocher le plus possible d'un lieu d'exercice du pouvoir. On va se rapprocher d'un ministère et on va tout faire pour pousser à bout les forces de l'ordre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il va y avoir une confrontation et ça risque de mal se terminer. De la même manière, il y a déjà eu, vous savez, des associations aussi qui ont installé des campements le long de la Seine. Pourquoi? Pour tout faire pour mettre soit incapaciter les forces de l'ordre, soit les pousser à la faute avec évidemment des risques sanitaires humains qui sont considérables. Et c'est là où, honnêtement, je trouve que votre point de vue est très intéressant, parce qu'on est vraiment au cœur tout se joue autour de ça.
On va passer dans quelques secondes aux annonces d'Emmanuel Macron et on suivra les développements sur cet article 24 et la suite donc des procédures judiciaires, une enquête de l'IGPN, on le rappelle, ouverte, et une procédure judiciaire également ouverte pour le coup de pied du policier contre un des associatifs présents. 18h43, on se retrouve dans quelques secondes et on continue notre édition spéciale à 1h maintenant des annonces du chef de l'État. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h45, la suite du débat des grandes voix avec toujours Emmanuel Ducrot, avec Charles Villeneuve et avec Louis Dragnel, chef adjoint politique d'Europe 1. On va parler maintenant donc de ces annonces attendues dans moins d'1h30, les choix d'Emmanuel Macron concernant les mesures sanitaires. Un allègement se dessine avec une ouverture attendue sous condition des petits commerces. Le président est attendu, vous le savez, au tournant. Il pourrait aussi annoncer la fin de la règle du 1 km. Ça n'est pas un déconfinement, nous dit l'Élysée, mais plutôt un confinement plus souple. Quelles sont les dernières informations, d'ailleurs, Louis, dont vous disposez?
Alors, les dernières informations qu'on a, alors ce qui était en tout cas sur la table, là, quelques minutes avant que le président prenne la parole, on revient en fait sur les trois étapes qui avaient été annoncées, à savoir donc 28 novembre, 1er décembre, la réouverture des commerces non essentiels, avec manifestement les attestations qui sont maintenues.
Donc plutôt le 28 novembre, hein, pas 28... le 27.
Voilà, alors c'est autour du 1er décembre, pour pas dire de bêtises, avec les attestations qui sont maintenues, mais une règle qui pourrait évoluer, le kilomètre et la limitation à 1 heure pourrait passer à 20 km et 3 heures. Ensuite, la deuxième étape pourrait être autour du 15-18 décembre, qui coïncide à peu près avec le début des vacances de Noël. Et à ce moment-là, il y aura une liberté de circuler qui sera sans doute un peu plus forte. Et enfin, la troisième étape qui est autour du 20 janvier, 15-20 janvier, et qui permettrait la réouverture des bars, des restaurants et des salles de sport.
Et ça, ils pourraient l'annoncer dès ce soir, et la réouverture des bars et restaurants le 15 janvier.
Alors à chaque fois, c'est... tout est dit,
sous condition,
beaucoup de précautions
sûr.
Et beaucoup de prudence. Je vous disais d'ailleurs, pour l'instant, c'est des pistes qui sont sur la table.
Bien sûr.
C'est ce qui était un peu aux dernières nouvelles.
C'est un élément important.
Sous
c'est
réserve
Emmanuel
de l'évolution
Dupont,
positive voilà, de la situation sanitaire.
On sait que les restaurateurs, les cafetiers, les hôteliers réclamaient depuis le début un cap, une direction et un délai à partir duquel ils pourraient ouvrir.
Et oui, c'est vrai que c'est important pour eux de savoir un petit peu comment se projeter. Je crois qu'ils avaient très bien compris qu'ils ne rouvriraient pas là avant Noël. Ce qui est important, c'est que la question du commerce va être réglée. C'était un gros point de fixation. On sentait que ça commençait vraiment à tirailler sur le commerce et que si on devait sursoir encore à leur rouverture, on allait au-delà de désobéissance, clairement.
Avec un protocole draconien quand même s'annonce. C'est-à-dire que
ça fait partie des choses...
pour 8 mètres carrés, donc pour les grandes surfaces, ça va être compliqué à gérer. Ça voudrait dire qu'il va falloir compter les gens à l'entrée. D'ailleurs, les responsables des grandes surfaces et des commerces, plus de 400 mètres carrés, je crois, seront concernés par ce protocole. Ça veut dire qu'il va y avoir des files d'attente devant les commerces qui semblaient inquiéter certains patrons de fédération.
Alors ça ne sort pas de nulle part, cette histoire des 8 mètres carrés. C'est ce que la grande distribution avait mis sur la table pour éviter la fermeture des rayons non essentiels il y a déjà 3 semaines.
Oui.
Et ça n'avait pas marché à ce moment-là, donc ça revient sur la table. Alors, ça ne devrait pas poser de problème dans les très grands hypermarchés. Vous savez, ceux qui font 16 000 mètres carrés, vous pouvez mettre 2000 personnes d'un coup. Même dans les très gros week-ends d'affluence, comme ceux qu'on va vivre là jusqu'à Noël, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est plutôt sur les moyennes surfaces que ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des gens à l'entrée, à la sortie, pour compter faire des différences, pour être sûr qu'il n'y a pas de jauge dépassée. Et c'est super important pour la grande distribution de bien respecter, parce qu'ils sont sous surveillance. Si on assiste à des scènes de ruée vers les rayons de jouets, ça durera une semaine, cette histoire. Donc il y a vraiment un enjeu de crédibilité pour le secteur.
Charles Villeneuve.
Non, moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt, si vous voulez, les fuites distillées en permanence au niveau du cabinet du Premier ministre et par rapport à tous les sociétaires du Conseil de défense, les ministres qui y siègent. Comment on a distillé petit à petit toutes les informations. Et ça, c'était pour préparer l'intervention du président.
C'est pas mal, ça, les sociétaires du Conseil de défense, je leur prendrai.
Comment ?
Les sociétaires du Conseil de défense, c'est pas mal trouvé.
C'est toujours les mêmes, en
c'est
gros.
C'est pas mal, c'est vrai.
Oui, c'est
vrai.
Parce qu'ils ne respectent pas l'embargo du Conseil de défense, c'est pour ça ?
Non, mais parce que je crois pas. Je crois qu'au contraire, le président de la République lui-même instille, si tu veux, dans l'esprit de la plupart de ses sociétaires, le fait de donner quelques informations pour préparer l'intervention de ce soir afin de provoquer une plus grande adhésion, notamment du public et notamment des Français.
Moi, il y a un élément que je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que, visiblement, la liberté de circulation sera donnée aux Français à partir, vous le disiez, Louis Dragnel, à partir du 15 décembre, a priori, pour pouvoir aller...
Mais avec des restrictions, a priori, il y aura peut-être un couvre-feu.
Ça,
peut-être
un couvre-feu.
Mais dans le même temps, Jean Castex a laissé entendre, devant sa famille politique, LREM, il a laissé entendre qu'il ne fallait absolument pas réveillonner. Il pense au réveillon du 31 décembre, car c'est un foyer, a-t-il dit, de contamination. Alors, comment, d'un côté, laisser les gens fêter Noël, et de l'autre, interdire les rassemblements
du
31 ?
Parce que le Noël, quand même... rassemble plutôt la famille, donc peu de monde, tandis que en général, le réveillon du jour de l'an est
mais bien sûr,
beaucoup
mais comment
plus,
gérer les autorisations et les allées et venues des uns et des autres.
Il faudra trouver un stratagème, en effet, pour éviter qu'il y ait du monde au réveillon du jour de l'an et moins de monde à Noël. Mais ce qui est intéressant, ce que tu as entendu tout à l'heure, Louis, dire que c'est à partir du
18-20 décembre, voilà.
C'est embêtant, c'est les vacances commencent le 17.
Le 17, voilà, 10, enfin, c'est autour du 10.
C'est important pour moi de savoir si c'est le 17.
savoir que tu peux inviter. Non mais il y a quand même aussi un autre sujet, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron fixait une jauge qui était suggérée à 6 personnes qui pouvaient se réunir, notamment
pour
des...
maintenant,
et donc, a priori aussi, ce qui était sur la table il y a quelques heures, c'est que le président pourrait suggérer une jauge entre 10 et 12 personnes.
Oui.
Et alors,
ça, c'est du domaine de la responsabilité individuelle,
voilà, parce
que personne n'a le droit d'aller vérifier.
Le gouvernement ne peut pas l'imposer. Et en fait, lors du premier confinement, le Conseil d'État avait cassé justement une mesure du gouvernement qui imposait justement des limitations de personnes dans leur domicile privé. Et en fait, on ne peut pas faire ça, l'État ne peut pas faire ça. puisque c'est une violation de la vie privée.
Et heureusement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Là, on est en train de donner l'idée aux Français que c'est leur responsabilité qui désormais compte. Et qu'il va falloir qu'ils se prennent en main pour vivre des fêtes qui ne se terminent pas en drame après. Et je crois que tout l'enjeu de ce discours de ce soir, ça va être ça. Le basculement de la contrainte à la responsabilité individuelle.
C'est-à-dire faire appel plutôt à l'intelligence.
À l'intelligence. Et on sent bien que de toute façon, la coercition avait trouvé ses limites. On a vu fleurir des fêtes sauvages dans le 13e arrondissement de Paris, dans des pavillons ici et là.
Globalement très peu.
Oui. Globalement peu.
Oui. Mais les gens se tiennent bien.
Oui, absolument. Et le port du masque est respecté.
D'ailleurs, on parle des maladies mentales post-confinement. Il faut quand même. Enfin, je pense que j'espère que le gouvernement, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils sont conscients que. On a demandé beaucoup aux Français
et qu'on est
à un état quasiment de dépression nationale. Oui. C'est-à-dire que les gens ne manifestent pas grand-chose. On s'attendait à ce qu'il y ait des manifestations de contestation et en réalité, elles ont été plutôt faibles. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui couvre, qui sera intéressant d'analyser dans quelques mois, savoir comment est-ce que dans cette espèce de feu qui couve se réveillera ou s'il se réveille dans quelques mois avec les conséquences économiques et sociales de toutes ces mesures.
C'est vrai qu'on est au début de la crise économique et sociale.
C'est que les Français sont, dans ces attestations de déplacement limitées à un kilomètre, etc., ils sont assez intelligents pour savoir que dans un pays où tu passes les frontières sans aucune attestation, sans aucun papier, comme tu veux, demander sans arrêt de contrôler les gens sur des attestations limitées à un kilomètre ou plutôt à une heure de déplacement, c'est ridicule, c'est absurde. Surtout quand tu veux assouplir le dispositif et tu es dans une période de dégel où il te faut, justement, comme vous le disiez, la participation des gens à ça. Parce que si tu continues à contraindre la plupart des gens, tu arriveras à une exaspération.
En tout cas, le choix des mots va être aussi très important, vous le disiez, Emmanuel Ducrot, c'est-à-dire d'envoyer le signal que ça n'est pas le retour à la vie normale, que ça n'est pas un déconfinement à proprement parler, que c'est un confinement moins verrouillé, moins serré, avec, j'imagine, aussi la perspective du vaccin, car on attend aussi le président de la République sur la stratégie de vaccination française.
Mais est-ce qu'il va donner des nouvelles du vaccin un peu ce soir ?
Peut-être qu'il fera un état des lieux des différents contrats qui ont été signés, parce que ça donne quand même déjà une perspective. Peut-être déjà faire savoir qu'on est en train de prévoir les dispositifs vaccinaux, la manière dont on va pouvoir aller s'installer sur tout le territoire pour faire des campagnes de vaccination massive. Il faut passer dans une phase après, parce que la norme ne fonctionne que s'il y a une acceptation de la norme.
Oui,
bien sûr.
Et là, sur les vaccins, il n'y a qu'un Français sur deux qui dit qu'il souhaite se faire vacciner.
Mais si c'est déjà un Français sur deux, c'est pas mal. Ça permet d'arriver à une forme d'immunité collective.
Ce qui est intéressant, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ceux qui veulent se faire vacciner, ils sont ultra déterminés à vouloir le faire. Et ceux qui ne veulent pas, en fait, sont quasiment des militants qui ne souhaitent absolument pas se faire vacciner. Donc je pense qu'il y a aussi un débat sur, vous savez, qui a déjà été posé. Est-ce que ce vaccin va être obligatoire ou pas ? Oui. Donc voilà, toutes ces questions, en tout cas...
Je crois que tous les scientifiques qu'on a pu interroger, nous, ici, au 18-20, sont tous unanimes. Il ne faut pas le rendre obligatoire parce que l'effet serait totalement néfaste pour l'adhésion des Français au vaccin.
Je pense qu'on n'aura pas besoin de le rendre obligatoire. J'ai observé ce qui s'était passé aujourd'hui avec la compagnie aérienne australienne Qantas, qui a décidé que pour emprunter ses vols, il faudrait faire état d'un certificat de vaccination à jour. C'est-à-dire que les États ne vont pas avoir besoin d'imposer les vaccins. Simplement, les compagnies vont le faire elles-mêmes, les compagnies aériennes, où il va y avoir pour les autorisations de passer d'un pays à l'autre des autorisations vaccinales, le retour des carnets vaccinaux qui n'ont d'ailleurs pas tout à fait disparu, puisque dans certaines zones de la planète, il faut se faire vacciner contre, je ne sais pas quoi, la fièvre jaune, par exemple.
Ça concerne les gens qui voyagent et tout ça, concerne déjà les 50% qui veulent se faire vacciner. Quand vous regardez le détail des enquêtes d'opinion, les 50% qui ne veulent pas, en réalité, sont souvent des gens qui votent plutôt vote contestataire, qui sont souvent des gens qui sont dans des milieux plutôt précaires. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois, il y a des effets démultiplicateurs.
Pas que, il y a aussi beaucoup de jeunes qui se sentent immunisés, qui se sentent intouchables par rapport
Mais en Australie, il y a des TGV.
Alors, ça, c'est une bonne question.
On attend de voir ce que dira tout à l'heure le président de la République. Merci à tous les trois. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes avec le Grand Journal et puis suite de notre édition spéciale jusqu'à 20h avec l'allocution du président de la République et le grand débrief derrière. À tout de suite.